France Inter.
Et c'est la bande originale. Avec Lisa Delmoitié, avec Mélodie Fontaine,
bonjour.
Avec Daniel Morin,
Mélodie
Pastureau. Une nouvelle. Amandine, on va faire du bruit.
Ouais.
Amandine Bourdel et nos invités Sarah Biasini et Tom Lenn.
Ouais. Ouais. La bande originale avec Nagui.
Je vous demande d'être donc gentil, accueillant, sympathique avec Amandine.
Bonjour.
On démarre par l'état d'esprit cette semaine, avec dans quel état d'esprit vous êtes. La politesse voudrait que je commence avec Sarah et Tom, mais je vais commencer par vous, Amandine,
oui,
évidemment.
Ça
sent le bizutage, surtout qu'on va ouvrir votre micro, ça sera beaucoup plus pratique.
Merci.
Avec un micro ouvert, voilà. C'est un bizutage pour tout le monde, en fait, hein, c'est ça. Quel est votre état d'esprit?
Écoutez, comment on reçoit une pièce qui se déroule à Venise, ça m'a rappelé que ma vie n'était qu'une longue et douloureuse traversée du pont des soupirs.
Oh.
Avec derrière des regrets devant cette fin inéluctible, mais je suis très contente d'être là. Bonjour.
C'était pas préparé cette phrase.
Non, c'est bien, hein.
Je suis impressionné.
Ça va, faut que j'écrive un truc.
Ça va bien, il va falloir que je trouve deux mots sur deux. Dans quel état d'esprit êtes-vous?
Très bonne.
Je parle de l'état d'esprit.
Ouais. Non. Un peu fatiguée, non, parce que ça n'intéresse personne, mais toutes les nuits, je me réveille à 4h du matin.
Ouais.
Et après, je me rendors plus, donc c'est un peu compliqué.
D'accord.
Okay.
Mais à part ça, non, très bon.
Fatiguée. Non, mais ça peut être un état d'esprit.
C'est recevable.
Tom, Leb, dans quel état d'esprit êtes-vous?
Écoutez, moi, depuis quelques jours, je suis dans un état d'esprit de découverte.
Ah,
wow, absolument, wow. Ouais.
Curiosité, quoi.
Ouais, j'ai l'impression
le plaisir de réveiller Sarah tous les matins à 4h.
Exactement. Et de me rendormir tout de suite.
Oui.
De découverte, on va approfondir.
Ouais.
Lisa Delmoitié.
Avec la pièce, je me sens d'humeur romantique. Voilà, j'ai envie de trouver l'amour, j'ai envie de me marier et puis de devenir veuve. C'est le plan.
Ah, je la retrouve.
Mais en une journée.
En une journée.
Oui, évidemment, pas on va pas faire autant. Mélodie Fontaine.
Étienne Dao. J'ai bûché. Tout l'été, Nagui, tout l'été pour le blind test.
On a viré le blind test.
On m'a dit qu'il n'y en avait plus,
ah
je m'en fous, je me fais mon propre jeu à chaque fois. Un point pour moi. Yes.
Ok, bonne réponse.
Excellent.
Oldelaf, dans quel état d'esprit?
Je me sens ni veuf ni rusé, je vais plutôt bien, ouais, c'est ça. Je suis bien, je flotte sur la vie.
Parfait.
Il y a 106 kilos de légèreté.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est la vie qui a peur. Daniel Morin?
Ouais, alors moi je me sens d'humeur prudente, car figurez-vous, j'ai testé le sandwich œuf-avocat.
Non, il paraît qu'il ne faut pas.
Ben oui, mais on me le dit que maintenant. Ouais. C'était hier que j'en ai mangé en regardant la cérémonie d'ouverture.
Ah oui, la fameuse. Dont on va peut-être parler tout à l'heure. Et alors moi je suis dans un état d'esprit un peu comme Tom Leb, c'est-à-dire que là, aujourd'hui dans la journée, il va se passer un truc que j'attends depuis des années pour mon boulot, et qui va peut-être se réaliser aujourd'hui.
Tu vas être payé?
On va y revenir, on va y revenir tout de suite.
Peut-être un jour. Non, mais c'est vrai, tu sais quand t'as des rêves comme ça qui traînent,
oui.
Tu dis, est-ce que ça va se faire?
Vous demandez tout de suite ce que c'est?
Ouais, bah non, quel intérêt, si ça se fait pas.
Vous pouvez pas nous laisser
dans
comme ça.
Bah si, je vais vous laisser comme ça.
C'est sa spécialité.
Ça sont au théâtre du mardi au vendredi. Il y a également le samedi à 16h et 20h de double dose et le dimanche à 15h. C'est à partir du 10 septembre prochain. La veuve rusée de Carlo Goldoni. On va en parler jusqu'à 12h30. Mais d'abord, voici Oldelaf qui est fan déjà.
Ah. Oh oui! Je suis fan de Sarah Biasini. Je suis fan depuis 10h30. Aujourd'hui au théâtre, c'est elle la star. Il lui manque plus qu'une pièce d'Alil Vardar. Je suis fan aussi de Tom Leb. Son père est très célèbre, c'est Sébastien Leb. Il sait tout faire, il joue, il danse, il brille, il chante. C'est comme Patrick Bruel, enfin sans main courante. Et vous êtes là pour une pièce de Goldoni. Je connais pas ce mec, j'ai rien trouvé sur lui. Pas d'Instagram, pas de TikTok, Snapchat non plus. Faut pas trop qu'il s'étonne s'il meurt inconnu. Oh, je suis fan de de Tom de ses choix solides. Comme vous le pardon, comme faire l'Eurovision. Pile pendant le Covid, j'ai fait pareil, j'ai sorti un album en 2020. Il a autant marché que celui de Daniel Morin. Je suis fan de votre pièce, La Veuve Rusée. Je crois que c'est un biopic sur Laetitia Hallyday. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec La Veuve, la bande originale. Aussi, ouais.
Il est temps que la semaine se finisse. Bravo! Sur scène.
Ouais, il est fatigué, mais demain, il sera à Montauban et à partir du 24 septembre, tous les mardis, au Grand Point Virgule, c'est à Paris.
À Montauban, vous allez le ramasser dans un état. Ah ouais, vous allez voir, ça va
il va être liquide.
On va ouvrir ton micro.
C'est le gag du jour. Trouve le micro ouvert.
À partir du 10 septembre prochain, ça se présente vite. Une pièce de théâtre, ça se prépare combien de temps à l'avance, Sarah Biasini?
On a démarré le 12 août et comme on est quand même...
Donc un mois avant.
Oui, mais c'est peu.
L'écriture a commencé un peu avant, je pense.
Longtemps. Mais c'est peu le 12, parce que parfois c'est quand même 5 semaines. Mais là, il faut dire quand même qu'on y est de 10h à 18h tous les jours.
Okay.
Et ça, c'est rare.
Bah, c'est
parce que les acteurs,
dense.
Parfois, ils disent un service de 4 heures de répétition, ça suffit, 4 heures, juste ouais, 4 heures.
Non, c'est la première fois que vous jouez au théâtre.
Oui, absolument. D'où, n'est-ce pas, mon état d'esprit de découverte.
Exactement.
Voilà, mais je découvre ce que c'est la vie en communauté, dans les répétitions, un metteur en scène d'un autre pays, qui met donc plus de temps à s'exprimer que la normale. Mais
il faut chier pour ça, les étrangers.
Il y a plus qu'un metteur en scène, parce qu'il y a des projections, il y a toute une scénographie qui est mise en place, il y a un jeu de lumière, de costumes évidemment, puisque comme l'a dit Amandine tout à l'heure, on est à Venise, c'est-à-dire qu'il y a il y a aussi les moyens, il y a la production qui est mise en place. Quand il y a des effets autres que simplement le jeu de ses compagnons sur scène, il faut se caler précisément, il y a encore plus de rigueur, il y a des tops à respecter, c'est une mécanique.
Oui, sauf qu'on n'est pas encore à ce stade-là, c'est-à-dire qu'en fait, nous les acteurs, on travaille de 10h à 13h, de 14h à 18, et à l'heure du déjeuner, vous avez les...
Vous êtes très pointu sur les horaires.
Oui,
sur
aujourd'hui,
c'est ça.
Ouais.
C'est la syndiquée de...
Exactement. Okay. Mais pendant l'heure du déjeuner, vous avez le...
De quelle heure
Créateur. Vous avez le créateur lumière qui va bosser le soir. Donc, chacun bosse un peu dans son coin, et on n'est pas encore au moment où on va tous se réunir et coordonner, voilà.
Katharina Mourinho, a le rôle principal...
Je vais couper son micro.
Non, parce que sinon, ça va... Elle va
s'énerver, je sais.
Elle s'énerve vite.
Giancarlo Marinelli est le metteur en scène. Bon. Il ne parle pas un mot de français.
Si. Non, il a fait.
Je sais pas, Tom apparemment a du mal à comprendre.
Mettez-vous d'accord. Hein.
C'est-à-dire qu'au début, il disait dites les fraises. Et moi, je comprenais pas. En fait, il voulait dire les phrases.
Non, il voulait dire fraises, mais.
Du coup, il est fâché.
Il fait la gueule.
Il a fait beaucoup de progrès. Enfin, il a fait beaucoup d'efforts. Non, il
est. Pas de progrès, c'est ça.
On l'aime beaucoup.
D'accord.
Non, mais si, mais des progrès. D'ailleurs,
c'est Katharina qui l'a choisi, c'est elle qui a porté ce projet depuis le début.
Oui.
Goldeni, que ne connaît pas Oldelaf.
Personne sur Internet.
Mais on le reçoit aujourd'hui. Donc
on peut dire que c'était avant Molière déjà les pièces qui mettaient en scène la bourgeoisie, la place des femmes dans la société.
Oui, ben là, celle-ci, c'est 1748. Et oui, c'est très. Bah, ça dénonce, quoi. C'est assez moderne.
Vous êtes la servante au service de cette veuve qui attire les convoitises de tout Venise. Vous, Tom, vous jouez le rôle d'Arlequin.
Oui.
On imagine donc ces costumes chatoyants colorés. On imagine aussi de la musique pour nous mettre en situation, parce qu'on approche du carnaval au moment où cette scène se déroule et où des prétendants, 4 prétendants de 4 pays, vont venir se servir de vous pour être le porteur de leurs avances.
Donc il y a un espagnol, un italien, un anglais et un français, ça sonne un peu...
Ça fait une sale blague. Ils sont dans un avion.
Exactement.
Ça fait sale blague. Exactement. Des années 70.
Le commandant Bardella prend le micro.
C'est ça.
En tout cas, la fin n'est pas une sale blague des années 70. Non, c'est effectivement, c'est très bien monté, c'est très bien fait. Et ce qui est bon à savoir, c'est qu'un Goldoni a fait un véritable succès à Paris il y a 3-4 ans, je crois, c'était Les Jumeaux. Donc je veux dire, dire, il y a une véritable volonté du public de redécouvrir Goldoni, mais c'est pas...
Non, mais c'est surtout intemporel.
Totalement.
Les valeurs portées par Goldoni.
C'est
sa force, ouais.
Exactement. Ça a beau être du classique, ce que ça raconte et ce que sous-tend le texte est extrêmement moderne.
Le plaisir de jouer ce genre de pièce, de jouer avec le quatrième mur, celui qui est soi-disant entre la scène et la salle, de le faire tomber, de faire des apartés, de glisser comme ça des petites phrases, c'est une gymnastique difficile à interpréter ou au contraire c'est un plaisir à jouer, Sarah?
Non, c'est drôle. Non, mais c'est voilà. Encore une fois, c'est une comédie, donc il faut vraiment en profiter un maximum.
C'est pas parce que la pièce elle-même est drôle que c'est forcément drôle de faire des ruptures, d'avoir des phrases.
Oui,
à
mais
moitié
tout
édites.
Est fait. Non, mais tout est fait. Le texte est fait pour ça.
L'histoire en elle-même est faite pour souligner le. On parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de bijoux, de cadeaux faits par ce Français, cet Italien, cet Espagnol et cet Anglais, et chacun avec des traits de caractère, tu veux dire, pardon ?
Dans une gondole.
Non, ben justement pas. Fait avec des, on va dire quoi, des clichés de ce que l'on sous-entend de leur culture et de leur manière de séduire les femmes.
Ouais, il y a à la fois des clichés, mais il y a aussi, ça aide à les différencier, parce que chacun arrive avec un désir différent et une façon de l'aborder différent.
Bah, désir, non, ils veulent la veuve rusée.
Ils ont tous un ego différent.
Exactement.
Ouais, les hommes ne sortent pas grandis de cette pièce, hein, Sarah, on est d'accord.
Sauf un.
Oui, sauf un.
Arlequin.
Sauf un, le plus...
Oh. Il s'agit d'Arlequin.
D'accord, Tom. Si tu
non, justement pas. Non, sauf un, mais bon, de toute façon...
Le plus sincère.
Le plus sincère.
Sort,
c'est ça la morale
de l'histoire.
Exactement. C'est que c'est l'amour,
c'est
l'honnêteté, c'est l'amour et la fidélité.
Donc c'est une fiction.
C'est l'honnêteté.
Totale fiction.
Cette pièce donc se joue à partir du 10 septembre au Théâtre des Bouffes Parisiens. J'aurais peut-être pu commencer par ça.
Vous l'avez dit.
Avec donc cette distribution de Caterina Morino, Sarah Biasini et Tom Lev qui sont nos invités. Il y a également Vincent Dezania qui joue Monsieur Leblot, donc qui joue le français de service. Thierry Harcourt qui joue le Lord anglais. Pierre Rochefort qui joue le comte italien, si j'ai bonne mémoire. Et une présence vocale, on peut le dire ou c'est spoilé si on...
Trop tard.
On peut le dire.
J'ai pas dit la présence vocale.
Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le dire?
Je sais pas.
Bah, on va le dire.
On va le dire.
C'est toi qui le dis.
Ah bon?
Ouais. Jean Reno.
L'âge, si. Oui, c'est lui.
Quel est ce personnage que l'on ne voit jamais, mais dont on craint tout?
C'est pour ça
y compris
que...
la toux et ses crachats.
Oui, exactement. C'est pour ça qu'il doit faire peur, donc on ne veut entendre que sa voix très grave et très résonante.
Puissante.
Très puissante. C'est l'oncle de Rosa Ora qui est joué par Caterina Morino. Et donc,
Et qui se veut quoi
le, et qui se veut.
Qui contrôle un peu la situation, qui ne veut pas la laisser se faire séduire par n'importe qui.
Voilà, qui veut. Et en gros, qui veut la garder pour lui.
Parce qu'il y a encore une fois des intérêts financiers à la clé.
Exactement.
Non, mais l'argent est très présent quand même.
Oui, non, c'est-à-dire que lui, il l'a. Comment on dit? Il l'alimente. Enfin, il l'alimente, non. Non
il l'entretient.
Il l'entretient, merci. Il l'entretient.
Il l'alimente. Mais il lui jette deux, trois avocados avec des œufs.
Avocados.
Avocados.
Mais secrètement, il espère quand même aussi, bien qu'il soit son oncle, il espère plus. Et voilà, et elle est tiraillée.
Ouais. Bancale l'histoire.
Sacré micmac. Ouais.
Très 18e.
Très 18e.
Impression du 18e.
Moi, je sais, normal, à la page.
C'est très bien trouvé. Bravo.
On va en parler jusqu'à 12h30. Sarah Biasini et Tom Leb sont nos invités. Mais d'abord, voici Lisa Delmoitier. Alors, Lisa, vous n'auriez pas fait La Veuve Rusée comme ça?
Non, j'aurais pas fait ça comme ça. Non, La Veuve Rusée, c'est l'histoire d'une veuve qui cherche un nouveau mari.
Ouais.
Pourquoi?
Oui, c'est ça. Mais
d'accord. Enfin, le veuvage, c'est le meilleur des deux mondes. Je peux vous dire qu'il aurait une autre gueule, mon célibat, si j'avais touché une assurance vie, quoi. Mais veuve, c'est stylé, ça fait veuve noire. Vous savez, cette araignée qui bouffe le mal après le sexe. Rien, ça. Moi, maintenant, en préliminaire, je force le mec à regarder un documentaire sur les araignées. Ça te sert d'avertissement. Alors, si tu veux revoir ta famille après cette nuit, t'as intérêt à trouver le clitoris, mon pote. Mais revenons à notre veuve rusée qui, selon mes infos, n'a pas bouffé son mari. Donc, Sarah Biasini, dans la pièce, vous l'aidez à trouver un nouveau mari. Mais arrêtez, Sarah, nom de Dieu, laissez-la tranquille.
J'essaye de la décourager, mais elle insiste.
S'il vous plaît, continuez. Une étude universitaire, je vous jure, c'est vrai, a prouvé que le décès d'un conjoint est nocif pour la santé si t'es un homme, parce que tu perds ta compagne qui t'aide au quotidien, mais bénéfique si t'es une femme. Parce que je cite l'étude, en perdant ton mari, tu te débarrasses d'une source de stress.
Mais
c'est
non,
c'est tellement vrai.
C'est vrai,
c'est
tellement scandaleux.
C'est génial.
Je trouve l'étude assez cliché sur les rapports hommes-femmes qui me semble quand même plus équilibré. Mais l'étude a été menée par l'université de Padoue, en Italie. Je veux pas faire dans les clichés, mais j'ai suffisamment d'hommes italiens dans ma famille pour ne pas m'étonner que quand le mari claque, la femme a moins de boulot. Voilà. Par contre, Sarah, votre personnage a raison d'encourager une veuve à s'amuser, à batifoler avec l'un ou l'autre coco. Et c'est là que votre personnage, Tom, entre en piste en faisant défiler des prétendants français, anglais, espagnols, italiens. En gros, la pièce, c'est l'Eurovision, rencontre Tinder, tout aussi cosmopolite, mais moins gay que l'Eurovision. Et comme moi, avec les Italiens machos, on a droit dans la pièce donc à un petit florilège de clichés avec le Français qui croit que rien n'existe en dehors de Paris, l'Italien jaloux, l'Espagnol intense, mais c'est léger, c'est des petits clichés rigolos. De toute façon, moi j'ai une théorie, je pense que c'est ok de véhiculer des clichés racistes tant que c'est entre blancs. Voilà. C'est quand même nous qui avons inventé le concept du racisme, c'est le nous. En tout cas, c'est nous qui avons exploité tout le potentiel. Moi, quand je vois des non-blancs être racistes, je suis choquée. Je suis désolée, mais c'est de l'appropriation culturelle. Okay, le racisme, c'est notre truc.
Totalement.
Mais la veuve rusée a bien raison de s'amuser avec quelques Européens. Moi, j'adore les rencontres romantiques à l'international. J'ai plus de 10 ans d'auberge de jeunesse dans les pattes. J'ai entendu en 14 langues la phrase « Tu prends la pilule, hein ?» Je suis tellement pro-Europe, moi, je peux même vous dire en espéranto. C'est « Tu prenis la pilolo. » Voilà. J'ai reconnu quelques anciens amants dans les personnages de la pièce. L'italien est romantique, c'est vrai. Moi, un été, vraie histoire, un italien à Florence m'a dragué en proposant de me faire goûter la vraie recette de la carbonara. J'ai accepté, bien sûr, pensant que c'était un pléonasme. Oui, oui, ta carbonara. Je pensais que votre recette, justement, c'était sans la crème fraîche. Mais en fait, quand je suis arrivée chez lui, il avait vraiment fait de la carbonara. Et c'était délicieux. Alors, malheureusement, c'était la meilleure partie du rendez-vous. Je vous passe les détails, mais les farfales, ce soir-là, c'était des seules nouilles al dente. L'espagnol aussi, comme dans la pièce, est très intense. Moi, j'aime bien, mais coucher avec un espagnol, c'est comme regarder un danseur de flamenco. C'est sexy, mais par moments, tu te dis, est-ce qu'il est fâché sur moi? Enfin bref, vive l'Europe, vive le sexe dans l'espace Schengen et par pitié les veuves, mais profitez quoi.
Bravo!
Sur scène,
sans carbonara.
Et en tournée à al dente à Bruxelles le 4 septembre et le 2 octobre à Caen.
Ouais. En tout cas, je suis bien réveillée, moi.
La veuve rusée de Carlo Goldoni. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de redécouvrir le talent de Goldoni, parce que c'est rythmé, il y a suffisamment de personnages pour qu'il y ait de la diversité, mais pas trop non plus pour qu'on soit totalement perdu. Il a été souvent copié, on a souvent dit même que Molière avait copié ou s'était fortement inspiré de Goldoni, ça fait partie des incontournables. Ça fait plaisir de redécouvrir cette pièce, ça sera au Théâtre des Bouffes Parisiens à partir du 10 septembre. Quelles sont les 3-4 valeurs qui ressortent de cette pièce, Sarah Biasini? On parlait tout à l'heure des rapports hommes-femmes, on parlait tout à l'heure de...
si tu veux.
Non. Ou Tom, si vous voulez.
Je pense que vous l'avez très bien.
Mais parce que ce que je voulais dire, c'est que c'est très actuel. Le sujet, les sujets portés par...
Ça dépend comment on se positionne, mais ouais. Oui, c'est très actuel. Oui. Moi, je trouve que oui. D'ailleurs, en la lisant, j'ai dit, tiens, c'est marrant, ça, la position de la femme dans la société. Et...
Sa force de décider de son avenir et de ne pas être forcément promise à l'un parce qu'une famille aurait décidé ou parce
exactement.
Que...
Ou parce
qu'un père. Voilà.
Ouais, ou parce qu'un homme a de l'argent, voilà. Ce genre de choses. Mais une des valeurs sûres de cette pièce, c'est la fidélité. Selon moi. Je l'ai lu comme ça. Je l'ai lu...
Ouais, mais comment prouver sa fidélité à part, donc, cette ruse mise en place un soir de carnaval? C'est-à-dire, c'est tenter une complicité, d'ailleurs une sororité entre les deux, entre le personnage joué par Katharina et vous, et puis tenter les hommes pour voir qui sera fidèle parmi les quatre.
Qui résiste, qui résiste à la tentation. Pas brillant.
Une vraie belle scène, justement, on l'a travaillée hier, qui selon moi démontre cette fidélité et sur quoi la pièce est réellement fondée, une fois de plus selon moi, parce que ça dépend de comment on se positionne. Mais justement, on l'a travaillée hier, c'est pour ça que c'est tout frais dans ma tête, et pour en parler, c'est...
Bah racontez-la.
Ah bah non.
Bah pourquoi?
C'est une scène vraiment...
C'est le twist de la pièce.
Ouais.
Entre celui qui gagne et...
C'est celle dont on parle.
C'est-à-dire celui qui gagne le cœur de Rosa Aura, et Rosa Aura, et ce sur quoi c'est porté, c'est ce qu'ils se disent, et c'est vraiment très beau.
Mais vous aussi, votre personnage, Sarah, cherche l'amour, ou en tout cas, c'est ce que la veuve rusée lui propose.
Ouais.
Lui
dit, moi, j'ai essayé de résister, j'ai dit au metteur en scène, mais pourquoi ?
Tu as beau être ma servante, toi aussi, trouve-toi l'homme idéal. Mais, alors c'est ça qui est assez surprenant dans son propos, elle parle d'argent. Elle dit, trouve-toi aussi un mari riche qui t'emmène et qui te fait sortir finalement de ta condition.
Bah c'est plus sympa quand c'est pragmatique quoi.
Bah ouais. Non,
mais que bah on dit
faites attention Sarah, votre micro est ouvert cette
c'est
fois-ci.
Vrai, ah oui pardon.
elle pousse sa servante à se marier aussi, j'ai pas très bien compris pourquoi parce que
si pour sortir justement de cette condition.
Oui, mais elle est très bien, elle a déjà été mariée marionnette plusieurs fois. Voilà, c'est très bien tranquille, et puis elle aime bien papillonner, mais bon, voilà, il faut qu'elle se marie, donc elle va se marier.
C'est plus facile, finalement, de faire passer ses messages, ses valeurs avec quelque chose de totalement intemporel et d'aller chercher, justement, dans les classiques.
Mais c'est la joie des pièces classiques, c'est qu'on peut se permettre de jouer des choses qui ont été écrites il y a tellement longtemps qu'on se cache derrière ça, on se dit, ouais, c'était à l'époque.
Et à l'époque, c'était osé.
Totalement.
D'aller sur ce genre de terrain.
Et c'était même bien d'y aller. Ça permettait de rire de la société.
C'est fait pour que tout le monde rie de soi-même, hein, de nos travers et voilà.
Ouais. Et Arlequin. Alors autant la servante n'a pas spécialement envie elle de se marier, mais elle va quand même jouer le jeu avec sa nouvelle copine, la veuve rusée. Autant Arlequin, il est pas très malin non plus, on va dire. Moi je pensais, j'avais un souvenir du personnage d'Arlequin comme étant futé.
Bah c'est marrant.
Et pas teubé.
Bah c'est pas tout à fait le cas.
Il se plante, il commet des erreurs.
Bien sûr.
Il inverse ses messages.
Ça, c'est la partition comique. Mais l'intérêt du gars. Je veux dire, souvent, j'ai demandé, est-ce que, par exemple, vous, les filles à table, est-ce que vous voyez qui est Arlequin? Est-ce que ça représente?
Non.
Ouais.
Non, mais si je dis Arlequin, vous avez.
À part les bonbons, hein.
À part les bonbons, bien sûr. Si je dis Arlequin, vous avez quelque chose qui vous vient ou pas? C'est quoi?
C'est l'équivalent du Sganarelle dans la Commedia dell'arte.
Oui, c'est ça. C'est le même genre de gamme, et c'est les pompons, ouais, c'est les losanges, c'est la couleur, c'est le truc machin.
Oui.
Donc c'est l'image qu'on a d'Arlequin. Mais pareil, en travaillant cette pièce, j'ai découvert la véritable partition d'Arlequin, qui est, je veux dire, fourbe, menteur, joueur, complètement.
Oui, enfin c'est le malin qui s'abrite derrière des positions rigolotes.
Exactement.
Pour aussi se moquer des grands, pour se moquer du pouvoir,
exactement.
Pour se moquer des riches.
Exactement. Donc il a une certaine le portrait qu'il peint lui de la société en fait, enfin en imitant chacun des prétendants, parce qu'il est une fois laquais, une fois servant, une fois serviteur, une fois valet, donc il se transforme petit à petit dans la pièce pour porter les messages des prétendants et justement je trouve que c'est un bonheur à jouer, mais moi je vois pas de bêtises là-dedans. Il se plante, ça participe à la comédie de l'histoire, mais c'est un fourbe.
Sans la boulette il y aurait sûrement pas.
C'est un mec intéressé par la bouffe et l'argent, je veux dire, c'est très actuel. C'est un sang.
Est-ce que vous avez hésité, douté quand on vous propose ce genre de projet, jouer du Goldoni? On se dit waouh,
c'est qui?
Est-ce que
c'est... On commence par c'est qui?
Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a beaucoup de textes? Est-ce que la langue utilisée justement sera suffisamment fluide et pas et peut-être plus facile à apprendre, à interpréter?
Non,
c'est une question qu'on se pose ou pas du tout?
Non, mais en général, en plus, le texte arrive tout de suite après la proposition, donc on lit et puis alors.
Il y a une adaptation qui a été faite aussi.
Exactement, donc voilà, la langue est quand même remâchée, faite pour
plus fluide et plus moderne.
Voilà, exactement, merci. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour le rôle de marionnette, j'ai eu beaucoup de chance parce que le metteur en scène italien a mélangé dans la pièce originale la veuve. A une sœur, elle a une servante, mais elle a aussi.
Pourquoi vous voulez pas l'appeler
sœur.
Giancarlo Marinelli, vous l'appelez le metteur en scène italien pour...
Gianca. Vous savez comment on dit en italien, là, on fait une contraction pour aller plus loin. Gianca.
Gianca.
Ah,
Gianca.
Plutôt que Giancarlo, Gianca. Voilà. Ouais, comme Mélodie, on dit Mélo, quoi.
Voilà, voilà. C'est plus simple.
On peut aussi l'appeler Jean-Charles Marinelli, si vous voulez.
Voilà, c'est ça.
Mais moi, je m'appelle en fait Nagidelli. Hein.
C'est un italien. Très bien.
Voilà.
Et donc,
Gianca, il a dit quoi, Gianca?
Gianca, il a dit.
Enfin, de ce qu'on a compris.
Il a dit, j'étais demandé des fraises.
Il a dit les fraises.
Les fraises.
Non, il a réuni le rôle de. C'est parce que c'est. En fait, j'ai oublié de vous dire ça. C'est très important. On revient un peu en arrière.
Voilà. Vous n'êtes pas au top le jeudi, hein?
C'est vrai. C'est vrai. J'ai remarqué.
Beaucoup de difficultés.
Faut que je revienne le vendredi.
C'est dur le jeudi.
Ça, c'est très dur. C'est la sœur dans la pièce originale. C'est la sœur de Rosa Ora qui veut se marier. Et pas la servante. Okay. Et comme il faut pas que la pièce dure 3 heures,
il a concentré les deux personnages.
Voilà, et il m'a fait un beau cadeau parce que voilà, la servante est gonflée du rôle de la sœur. Donc j'ai beaucoup de choses à faire et c'est beaucoup plus drôle et intéressant pour moi.
Est-ce que vous avez déjà répété en costume? Vous répétez déjà dans les décors, dans les déplacements? Et est-ce que vous avez besoin d'être en 3D, j'ai envie de dire, pour le boulot se fait simplement dans une pièce avec le texte et il faut surtout connaître par cœur son texte et être dans le bon tempo par rapport aux autres?
Alors on a eu beaucoup de chance, c'est que déjà au mois de juin on a fait une semaine de travail à table, comme on dit, on est tous en jean autour d'une table avec le texte.
Et ça s'appelle une italienne.
Moi j'étais pas en jean, personne.
Il était en bermuda, c'est que ça avait choqué tout le monde.
D'ailleurs il était mauvais.
Non, c'est pas ça l'italienne. C'est pas ça l'italienne.
Ah bon ?
Non, l'italienne
c'est le texte.
C'est juste le... Oui, c'est le travail de mémoire.
Okay.
Là, on était devant le texte avec un petit crayon de papier et on disait ça, ça m'a pas, ça, il faudrait le reformuler.
Ça... Et ça s'appelle comment ?
Du travail à table. Du travail à table.
Okay. Après, il y a l'allemande ensuite.
L'allemande, c'est des déplacements, c'est juste les déplacements, la mémoire et les déplacements à froid, comme ça,
et
sans intention. Non, là, on met des intentions. On a eu beaucoup de chance parce que dès le premier jour des répétitions, le décor était installé.
C'est pas le cas de toutes les pièces de théâtre.
Absolument pas.
Pouvoir répéter dans le décor. Ouais, c'est...
Et là, on démarre avec les costumes bientôt.
Et vous serez prêts ?
Inch'Allah.
C'est des vraies bonnes questions, ça.
La pièce n'est plus italienne, elle est devenue arabe. Est-ce que vous avez déjà essayé les costumes ?
Je suis le seul qui n'a pas essayé le.
C'est vrai, pourquoi tu l'as ? Ah oui, parce que si tu l'as essayé.
Ils n'ont pas sa taille.
Il y a des retouches. Il y a des petites retouches.
C'est-à-dire, quand je suis arrivé sur scène avec le costume d'Arlequin, Giancarlo m'a regardé, il a fait mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'étais de ma gueule, quoi. J'étais trop élégant. Tous les losanges étaient magnifiques. Il y avait de la couleur de
partout. Ça va, Tom, au niveau de.
J'étais sublime.
Au niveau de la sobriété, ça va ?
Je rayonnais, tu sais, puis il a dit, c'est un mec qui a pas d'argent, qui est sale, qui est pauvre, qui pue.
C'est vrai.
Donc c'est limite s'ils
allez chercher Daniel Morin.
Ouais, voilà. Moi, je suis prêt, hein. Je prends le rôle, là.
Mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont pris le costume comme il était, qui était flambant neuf, blanc, et c'est limite, ils l'ont pas jeté dans la rue, ils ont fait rouler des camions de poubelle dessus, quoi. Et ils l'ont
sorti. On est à Paris.
Voilà. Et ils l'ont sorti, il est crade, et puis là,
c'est. Il trempait dans la Seine.
Ouais, c'est ça.
Avec 2-3 bactéries, je vais te faire un joli costume d'Arlequin sale. Ça sera à partir du 10 septembre au Bouffe Parisien, tellement hâte de voir cette pièce, drôle déjà à lire, intelligente et moderne par rapport à tout ce que l'on sait des rapports hommes-femmes, intemporel aussi parce que l'amour et la fidélité triomphent, c'est peut-être un peu nunuche comme phrase, mais
le plaisir de la langue aussi. Je trouve ça important. Ça
on parle de la pièce, là.
Du texte.
Ah là là, c'est un métier.
Il est prêt.
Du 10 septembre,
je t'en prie. Non, mais je dis, ça doit être une pièce traduite de l'italien. Parce que le traducteur a fait un super travail pour qu'on prenne plaisir à entendre cette langue française. Merveilleusement.
C'est Valerio Zaina, le traducteur.
Valerio Zaina.
Et là, oh, ça va.
Et on l'appelle Val.
Et Giancarlo Marinelli, donc, en est le metteur en scène. C'est à partir du 10 septembre au Bouffe Parisien. Mais d'abord, voici, on continue d'en parler jusqu'à midi et demi. Elle, c'est Mélodie.
Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver.
Coucou.
Je suis obligée de faire genre, on se retrouve, hein, mais allez, on se dit tout, brisons le quatrième mur, j'en ai croisé quelques-uns pendant les vacances. Oh, si j'osais, bon allez, je vais pas rentrer dans les détails, c'est le cas de le dire, mais bon, Daniel, j'en profite qu'on se croise, le test de grossesse, c'est ok. J'ai eu peur, mais on a échappé au pire, c'est bleu. Je te rappelle que non, ça ne fait pas thermomètre.
C'est dégueulasse.
Ravie de vous retrouver. Ah, je disais, parce que franchement, voilà l'été, hein. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Eh, qu'est-ce que je chante bien, moi. Ouais. La voix d'un ange.
C'est une mélodie.
Nagui, j'attends toujours votre invitation. Alors, mais bon, ouais, vous avez dû l'envoyer à l'ancienne adresse, vous pouvez pas savoir que j'avais changé de cave. Bon. Bref, voilà l'été. Voilà l'été! Arrête. J'ai pas du tout envie que vous l'ayez dans la tête toutes les journées. Ah, ces vacances, c'était quelque chose. Une vie à 100 à l'heure, hein, mais en poids lourd et à contresens. Oui, parce que vous voyez, j'ai une fille de 5 ans. Je l'aime, hein, je l'aime. Oh là là, que je l'aime, mais qu'est-ce qu'elle me colle. Elle me lâche pas d'une semelle. Vous voyez le sparadrap qui s'accroche au doigt de Haddock dans l'affaire Tournesol? Voilà, le t-shirt qui colle au siège auto, la culotte de Leïla devant un match de basket.
Oh non!
Ah, c'est de la gnognotte à côté, les gars. Ma fille est toujours derrière moi. J'ai pas vu mon ombre depuis 5 ans. Hein. Je vous le dis, je l'aime, mais bon sang, comment faites-vous? Puissance supérieure qui en avait plus d'un, même un ennemi. Comment diable reposez-vous l'âme? Prenons la plage, par exemple. Tu dois jouer non-stop. Pourtant, tout donne envie de se détendre autrement. C'est comme un châtiment des enfers, en fait. Tout est à portée de main, mais inaccessible. Il fait 54 degrés, la mer est translucide, elle est à 20 mètres, mais t'es coincé dans le sable chaud. La caipie est à 10 mètres, 8 si Leïla tend le bras. Mais c'est déjà trop loin, la serviette attend ton dos depuis ta victoire contre le vent, mais non. Non, toi tu n'es autorisé qu'à creuser un trou dans le sable, un gros trou. C'est un peu l'inverse de ma carrière. Moi, c'est l'été que je fais mon trou. Une tombe. Eh oui, c'est ma propre tombe. Quelle belle analogie. En parlant de rhétorique, il y a aussi la lecture. Ton bouquin est là, à un pas de mouette. Pourtant, eh ben, toi, tu joues avec l'enfant et tu le regardes, ton livre, les yeux humides. Hein ? Tu connais sa couverture par cœur. Si tu fermes les yeux, il se dessine en filigrane. Le livre aussi te regarde, lui aussi. Tu connais par cœur, c'est lui qui lit en toi. Et lorsqu'il lit en toi, il y découvre un texte pas ouf. C'est de désir et de frustration. Un livre érotique pour ado, mais en mal écrit. Ça fait combien de temps que j'ai pas pu lire un livre? Combien, je le sais. Pour tout vous dire, je suis même pas sûre de pouvoir encore lire. Je sais plus lire. Et puis ma fille a un âge où elle sait presque lire, mais pas tout à fait. Donc la tentation pour être peinard, ne serait-ce que 5 minutes, vous savez ce que c'est, hein? Ne serait-ce que pour s'épiler les doigts de pied ou s'arracher les cuticules, allez, la solution, on la connaît. L'épouvantail à parents parfaits, lui la moteur à conneries de ceux qui n'ont pas de gosses. Oui, les écrans. Un coup de Gabi et la maison magique et tu reprends tes esprits. Bien sûr que la culpabilité me ronge, mais je suis prête à caler 10 minutes de Vaiana pour poser une pêche.
Jugez-moi. Oh, belle image, merci.
J'ai vu une vidéo sur les réseaux où une mère faisait un squat à chaque fois que sa gosse disait « Maman, je me suis fait une déchirure en 20 minutes !» Musculaire, hein, musculaire, hein. Et puis là, on va les accompagner à l'école, et comme d'habitude, ça va être un acide mélange d'émotions, de la joie et de la tristesse, du soulagement et du regret. C'est un peu comme une nuit d'amour avec Daniel. T'es heureuse que ça s'arrête, bien sûr, mais tu éprouves une paradoxale mélancolie. Ça colle, c'est désagréable, mais ça a un petit goût de reviens-y quand même. J'en peux plus, les gars, la fatigue est totale. La reprise du taf, ça va être les vacances. Vive la rentrée! Vive la rentrée! Vive la rentrée!
Bravo! Oh, elle m'a épuisé. Et à Clermont-Ferrand, elle sera sur scène le 7 septembre et à partir du 13 septembre à Paris, au point virgule.
Ce qui m'inquiète, c'est que Sarah Biesini s'est reconnue dans beaucoup de situations.
Oui, je pleure, merci. Je pleure de joie, de rire.
De situations. La veuve rusée de Carlo Goldoni. On va parler dans quelques instants avec Guillaume de Brébisson de l'amour, du couple, de la sexualité et notamment de comment se rencontrer. Est-ce que finalement les dragueurs européens, puisque c'est le cas dans la pièce espagnol, italien, anglais et français, est-ce qu'ils ont une même manière ou pas de draguer? On fera aussi un tour de table pour savoir, vous, mesdames, si vous avez vécu des dragues européennes pour voir s'il y a des différences.
Ouais, c'est clair.
À part, il y a Lisa qui essaye de partir.
À part l'italien, à part l'italien de Lisa Delmoitier. Mais d'abord la musique, on va commencer en 2002 avec vous, Sarah Biesini, vous écoutiez les Pretenders. As man and woman, we still love each other, take care of each other, when love walks in the room, that's right. Everybody stand up, oh it's good, good, good,
tire la dos d'un film.
Like Brigitte Bardot. Qu'est-ce que c'est bon.
Ouais.
Alors, vous n'avez pas pris Brass in the Pocket, vous avez pris
non,
Message, Message of Love, Message de l'amour, Chrissy Hynde, icône du rock et fantasme
des filles et des garçons.
Ouais, de tout le monde, c'est vrai, ouais, vous avez raison. Pourquoi ce titre en particulier?
Alors, en fait, pour être très honnête, c'était le...
S'il vous plaît, il serait temps. Ouais,
parce... Oui, c'est vrai.
C'est mensonge depuis le début.
Ici, ouais, je peux le faire.
C'est trois quarts d'heure.
C'était Kid, mon titre,
oui.
Sur lequel j'avais le plus de souvenirs. Mais je me suis dit qu'en radio, c'était plus sympa, Massage.
Il fallait pas, non. Vous voulez qu'on mette Kid?
Non, c'est très bien. C'est très bien. Non, mais en fait, j'aime tous les titres.
De Chrissy Hynde.
Ouais.
Et quel était, alors pourquoi ce souvenir colle particulièrement aux années 2000-2002?
J'étais en cours
à Los Angeles.
Ouais, j'étais en cours de théâtre et je me suis fait amie avec une Italienne qui est toujours une excellente amie que j'adore, et on était en voiture parce qu'on prend beaucoup la voiture à Los Angeles. On était en voiture, on écoutait ça à fond la caisse.
Ah, j'ai l'image de Thelma et Louise quoi, de nana dans une bagnole cabriolet en écoutant de la musique.
Un peu ça et
et un autostoppeur, non?
Pas aussi beau que Brad Pitt.
Voilà, vous étiez, mais vous étiez là-bas quoi, à la fac? Fac de quoi?
Non, on était en cours de théâtre.
Ok.
Voilà.
Qu'avez-vous appris de particulier qui vous sert toujours aujourd'hui là-bas?
La mémoire sensorielle, figurez-vous.
Expliquez-nous.
C'est-à-dire que vous rappelez d'un souvenir, et pour que ce souvenir soit encore plus vivace, encore plus présent, vous faites appel à vos sens, c'est-à-dire
en dehors de la vue, à quelque chose.
Voilà, non. L'odeur,
le toucher,
l'odeur,
le
toucher,
son.
Le son, voilà, vous vous rappelez d'un parfum ou de la peau de quelqu'un, ouais, et le souvenir remonte encore plus vite.
Donc c'est le côté acteur studio, c'est-à-dire on cherche, oui, ce que l'on a vécu.
Exactement.
Et ce qui nous a touché pour créer des émotions, c'est ça?
Pour que ce soit encore plus personnel. Si vous essayez de chercher dans le personnage que vous avez à interpréter une émotion vécue par vous-même, ouais, similaire, et vous cherchez dans vos souvenirs.
Alors pardon, comment ne pas reproduire dans 4, 5 films ou pièces de théâtre la même posture, la même réaction, puisque vous faites appel au même sentiment ou au même souvenir sensoriel?
Ah, mais vous reproduisez.
Oui, mais alors donc, chaque fois que vous êtes triste, vous faites la même...
Non, mais il y a dans une...
Vous comprenez ce que je veux dire? Comment avoir différentes facettes?
Non, mais dans une vie, vous avez plusieurs sources de... Oui, voilà. Vous êtes heureuse plusieurs fois. Ouais,
vous le souhaitez.
Voilà.
L'apparence est la même, mais le texte est différent. Mais l'apparence de la tristesse est la même.
Mais c'est ça qui est...
J'entends, mais il faut aussi rentrer dans la peau du personnage et être différente. Et,
oui,
et l'adapter, et pas forcément créer la même...
Bah non, mais plus vous abattez, de toute façon...
Tu vois bien qu'il te challenge, là. Tu vois bien
oui,
que...
oui,
tu pleures.
J'essaye de répondre.
J'essaye de comprendre cette admiration ou ce travail pour l'acteur studio, qui n'est pas le cas de tous les acteurs d'ailleurs. Hein. Certains le repoussent, ce genre de choses, en disant « moi j'ai pas besoin de tuer un membre de ma famille pour être ému ».
Mais ils sont déjà morts. Non, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de les tuer. Non, mais si vous faites... Non, mais si vous faites... Non, c'est pas
une façon de parler.
C'est une image. Rangez ce revolver.
C'est une catastrophe, je dis.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que... La recherche, ce qui est intéressant, c'est d'être le plus sincère possible.
Ok.
Qu'on vous croit, c'est quand vous jouez quelque chose, c'est que l'idée, c'est que on vous croit. Donc, vous allez essayer de chercher dans votre vécu quelque chose que vous avez vécu qui ressemble à ce qu'a vécu le personnage. Et si le rôle est bien écrit, vous avez beaucoup de détails sur ce personnage. Et donc, je ne sais pas s'il se fait larguer. Ben, effectivement, ce n'est pas la même douleur que quand il est malade d'une maladie incurable à l'hôpital ou que son chien est mort.
Alors, pour jouer justement la sincérité, on va être sincère et on va écouter Kid un tout petit peu.
Merci.
Et sincèrement, j'adore ce titre. Ça va encore mieux, je pense, à l'image de deux filles dans un cabriolet.
Il y avait un passage spécial dans la chanson, on était là.
Oui, vous n'avez pas me saoulé, quoi. Ça va, ouais. J'ai
non,
chercher.
Non, bien sûr.
Non, mais c'est pas exactement le passage que je
voulais. Ouais, mais tu choisis
ma chanson. Bah oui, on me donne ça, moi, je peux jouer ça.
Dans deux minutes, tu te demandes des avocats toast. Hein.
Avocado.
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 Ouais, mais sans eux.
Sans avocat.
Tom Leb, vous, en 2002-2003, vous écoutiez.
On peut le caler un peu après parce que c'est pas
le bon moment. Incroyable.
Peu cher. Là, vous êtes où à ce moment-là, au début des années 2000?
Je suis au collège à Paris. Et je découvre...
Et sport-études, hein.
Sport-études, ouais. Sport-études tennis. Et dans mes heures de métro entre le club et l'école, je découvre le MP3.
Ah oui.
J'ai 12, 13 ans et j'en reçois un pour mon anniversaire. Bonjour.
J'en prie. Je précise pourquoi cette interruption subite, c'est parce que notre invité vient de rentrer en studio et que Tom est sans filtre.
Non, il est poli. Il est bien élevé.
Et donc ouais, je découvre le MP3 et puis il y a l'arrivée du R&B en France. Les Américains débarquent, ils font le Hit Machine, le M6 Music, ils sont partout, ils prennent la place partout. et Usher et Justin Timberlake et cette époque-là. Mais Usher est partout dans ma vie et je l'écoute à longueur de journée. Et ce titre-là berce le début de mon adolescence et mes années de tennis.
Et dans ces années, à déjà 12-13 ans, vous montez sur scène dans Mrs. Doubtfire.
Voilà, c'est cette époque-là aussi. Ouais, j'accompagne mon père en tournée dans la pièce Mrs. Doubtfire, exactement.
Je fais une petite parenthèse, Michel Leeb qui reviendra au théâtre dans une pièce à la Michaudière.
De Goldoni.
Je ne crois pas. À la Michaudière avec Marianne Chazelle, mise en scène par Nicolas Briançon.
C'est ça.
Je ferme la parenthèse.
C'est ça.
Et donc là, dans Mrs. Doubtfire, vous jouiez donc quoi, les enfants qui devaient être gardés?
Et je jouais son fils.
Ouais.
Là, pareil, il a fallu aller puiser pour
donc vous avez déjà fait du théâtre?
Ben, c'était ma seule expérience. C'est vrai. C'est vrai que j'ai du coup déjà fait du théâtre. Ouais. J'avais 13 ans. Et ensuite, entre 13 et 34, il y a 20 ans.
Il y a l'Eurovision du Covid. Vanne récurrente. Alors, on va peut-être tuer le game tout de suite pour ceux qui ont raté cet épisode là.
Ouais.
Racontez pourquoi on vous charrie avec l'Eurovision.
Je suis celui qui a fait l'Eurovision sans la faire, en fait, finalement. Depuis la création de l'Eurovision, c'est la seule annulation et c'est tombé sur.
Non. Il y avait une annulation. La France n'avait pas participé lorsque
bien sûr.
Parce que Pompidou était mort, je crois. Il y a eu un président de la République décédé et finalement ça n'avait pas été. C'était d'ailleurs comme un boomerang qui était la chanson qui devait représenter la France, qui n'avait pas été présentée à ce moment-là, par respect pour.
Mais c'était un choix de la France de ne pas y participer.
Exactement. Là, c'est l'Eurovision qui n'a pas eu la chance d'entendre ça.
You are the best in me. Énorme. Au fond de moi, j'ai un tube interplanétaire magnifique.
Mais arrêtez de vous moquer si ça devient.
C'est moi qui l'ai fait.
Bah justement, il y a des limites à l'autodérision. En 2000, alors il y a eu deux années où la France n'a pas participé à l'Eurovision, enfin donc trois avec la vôtre, 74 et 82. 74 c'était
Pompidou.
La mort de Pompidou. Mmh. Et 82,
c'est match France-Allemagne à cause de ça.
Non, du tout. C'est les médias français qui n'ont pas voulu participer, qui n'ont pas voulu présenter un candidat à l'Eurovision.
Ah ouais.
C'est Pierre Bouteiller qui a dit ouais, on fera pas l'Eurovision cette année. C'est chaud quand même. Ouais. Bah alors Pierrot, bah non, j'ai pas.
Parce qu'on pourra s'en croire.
En 2005-2006, vous écoutiez Sarah Biasini. Arrête. Un peu de rock, un peu de soul dans votre vie, de rhythm and blues. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous?
La première pièce de théâtre que j'ai faite.
Mon petit doigt m'a dit.
Non.
Ah pardon, ça c'était un film, pardon.
Oui.
Non,
ça c'est votre premier film. Parce que c'est cette période, hein.
Oui. Non, la pièce de théâtre s'appelait Pieds nus dans le parc.
Voilà.
Et c'était le choix de la musique, de la BO de la pièce. Voilà. Et c'est l'assistante du metteur en scène qui avait trouvé cette musique. Et donc, évidemment, je connaissais
l'assistante
Franklin,
de,
mais
de Steve
Suissa. Voilà,
je précise, vous êtes deux acteurs qui voulaient jamais citer le nom de vos metteurs en scène.
C'est nul.
Bah, c'est pas comme ça que vous aurez d'autres rôles.
C'est
en vrai. Tout
cas. C'est l'assistante de Steve Suissa qui s'appelle Caroline Dufault qui me fait découvrir ce titre-là. Non, ce titre-là en particulier.
Okay.
Que je connaissais pas et où j'adore et où je me souviendrai toujours. On marche, on partait du Marigny pour rentrer chez nous, mais on continue à marcher et elle me fait écouter ce titre. On était sur la partie basse des Champs-Élysées, quoi. On marchait vers la Concorde. Et j'entends ce titre et j'adore ce titre. Voilà, et donc ça me rappelle. Et puis voilà, c'est l'ouverture de la pièce.
Ça fait très Thelma Louise, mais sans voiture.
C'est ça.
C'est vrai.
Et puis c'est Thelma Louise pour.
On est plus vieille. On a vieilli.
Tom Leeb, en 2005-2006, vous écoutiez Sia. Correspond à un moment de tristesse ou de bonheur?
De bonheur. C'était mes années d'internat, juste après le sport-études et le tennis et tout ça, quand j'ai décidé de prendre mes études en main. Et,
vous avez arrêté tennis pour une raison précise? Vous étiez à quel niveau? Vous étiez bon?
J'étais pas mauvais, mais pas suffisamment bon pour continuer. Puis j'ai un peu fait une overdose de tout ça, de la quantité de sport.
C'était tous les jours combien d'heures?
J'avais physique plus entraînement, plus de 14h à 18h, comme les répétitions de Golden, en fait. tous les
ça
jours.
Ça fait à peu près 4 heures.
Hein, ouais, c'est ça.
On vous pose la question.
Ah ouais.
Et plus les tournois le week-end, le mercredi après-midi.
Ah oui, c'est ça, non-stop.
Non-stop.
Et ça vous a pas manqué d'arrêter? Il y a pas une dose de dopamine qui arrive pas en
si,
disant.
Si.
Mais il manque un truc.
Ça m'a appris beaucoup de choses, en tout cas le sport, la rigueur, l'envie de le sérieux, l'envie d'aller plus loin, la compétition, tout ça. Mais c'était finalement pas pour moi et je m'en suis très vite rendu compte. C'est tant mieux puisque maintenant j'ai fait une carrière que j'adore. Mais
vous avez été partagé entre la France, la Suisse, les États-Unis. Vous avez beaucoup bougé.
Oui, je suis parti aux États-Unis. Ben, je cherchais pour être franc, je cherchais un peu de. Je cherchais une identité quand je suis parti à 18 ans à New York parce que je voulais déjà faire du théâtre, mais j'avais.
Tu voulais pas être le fils d'eux.
Ouais, ben c'est un réflexe assez normal. Je veux dire que les gens cherchent ce point de repère là. Mais quand on a 18 ans et que justement on se cherche soi-même, tout ça, j'avais besoin de devenir Tom plutôt que d'être constamment regarde là-bas, c'est le fils d'eux.
Et donc il n'y avait pas une solution simple que peut faire un acteur ou une actrice, prendre un pseudo.
Ça, j'y crois pas.
Pourquoi?
Ben parce que si vous recevez aujourd'hui, si je m'appelais, je sais pas moi,
Tom Paul Sardou,
vous auriez dit Paul Huchon.
Tom Sardou.
Non, Daniel.
Oui, bon, c'est Johnny Leb, c'est le mec qui change de nom, mais que prénom.
C'est marrant parce que quand t'as fait dans ta chanson tout à l'heure la vanne de Sébastien Loeb, j'étais dans un train il y a quelques temps et puis je vois un couple passer comme ça et le mec me regarde, il revient, il chuchote à sa femme, il dit regarde au siège là. Il y a le fils de Sébastien Loeb qui a fait l'Euromillion.
Oh la vache, c'est énorme.
Les deux, il est à ça d'être juste à chaque fois, il est juste à côté. J'avais presque à me retourner pour l'aider, lui dire c'est pas loin, ouais, c'est presque, mais l'intention est bonne.
C'était Jean-Michel à peu près.
Ouais, Jean-Michel.
On m'a gueulé à l'aéroport, oh Orelsan, il m'a fait plaisir. Tu vois, un peu sur le flirt.
Orelsan. Tu vois, voilà, quoi. Mais ouais, donc je suis parti à 18 ans pour essayer de.
Et être à l'étranger et faire, j'imagine, des écoles de quoi, de cours de comédie là-bas,
ouais, d'acteur et ça m'a permis d'apprendre l'anglais, d'apprendre parce que là-bas ils font l'acting pour la scène et l'acting pour la caméra.
Okay.
Ça, je trouve ça assez.
C'est vrai que le jeu n'est pas le même entre un acteur de théâtre et un acteur de cinéma.
Donc
vrai.
Ils ont ce qu'on appelle le acting for film et acting for stage et c'est vraiment assez passionnant de.
Dont vous vous servez maintenant pour votre première au théâtre.
Absolument.
J'imagine que vous avez cherché, non, mais c'est vrai.
Ah, bien sûr. C'est extrêmement différent la façon de jouer pour la caméra et pour la scène. Et c'est d'ailleurs passionnant, puisque là, on projette pour trois balcons, alors qu'au cinéma, on peut tout dire très chuchoté, et puis le linge et son se chargera d'un mix. Donc c'est passionnant.
Ça se passera à partir du 10 septembre au théâtre des Bouffes Parisiens. Très belle salle, en plus, parce que ça doit être agréable de jouer dans un lieu aussi magique et rempli de vibrations. La veuve rusée de Goldoni avec Sarah Biasini et Tom Leb qui sont nos invités jusqu'à midi.
Notamment.
Oui, évidemment. Enfin, tout repose sur vous, on va pas se mentir. Si Jean Reno servait à quelque chose, franchement, ça saurait. Guillaume de Brémisson nous a rejoint donc il y a à peu près 10 minutes, hein, puisque on a eu exactement l'heure de son arrivée grâce à Tom Leb et à sa politesse. Vous êtes thérapeute du couple, sexothérapeute. Tout à l'heure, on se demandait si la séduction ou les codes de séduction sont les mêmes en fonction des cultures et des pays. Est-ce que c'est un cliché? C'est un cliché du XVIIIe siècle ou est-ce que c'est vraiment encore le cas aujourd'hui?
Alors, forcément, on drague différemment selon les pays. Et évidemment, c'est culturel. D'ailleurs, vous qui faites une synthèse entre plusieurs cultures, qui avez épousé une femme biculturelle, vous savez, par expérience...
Ah, c'est une thérapie immédiate de...
Très
bien.
C'est toi qui en as le plus besoin. Hein.
Dans une minute, tu chiales.
Voilà. Pour ceux qui me prennent pour Smaïn, je vais rappeler donc le... Le principe,
avec la
ma maman,
la culture d'appartenance.
Je vais au bout. Ma maman d'origine italienne, mon papa égyptien, j'ai épousé une anglaise australienne. Voilà.
Ça fait un peu de mélange tout ça.
M'en parlez pas. Ça fait 4 enfants surtout.
Et toutes ces cultures différentes qui se mêlent, elles jouent forcément sur la manière d'être en relation.
D'accord.
C'est assez.
Ok, mais ça, c'est notre éducation qui joue plus, ou la culture fait partie de l'éducation.
Oui.
Ou est-ce que c'est trop cliché de dire que tous les Italiens. J'ai presque envie de dire, c'est raciste de dire tous les Italiens draguent comme ça, tous les Français draguent comme ça, tous les Anglais draguent comme ça. Mettre des gens dans des compartiments et dans des généralités, c'est pas bon signe.
Alors, vous touchez vraiment, il me semble, le sujet essentiel de l'histoire, c'est que. on est le fruit de plusieurs conditionnements.
Ouais.
On est conditionné par notre pays, c'est ce que vous dites là. On est conditionné par notre religion, par notre famille, par notre genre, par tout un tas d'éléments comme ça, qui font que on ne peut pas tout d'un coup décider que on va changer de manière d'être en changeant de pays, par exemple. Mmh. On est effectivement le fruit d'un certain nombre de conditionnements. Jung dit qu'on est également en lien avec l'inconscient collectif. Donc l'inconscient collectif qui transporte des archétypes dont on se rapproche ou pas.
Du style, il faut faire ça pour séduire, il faut faire ça pour draguer. Que ce soit homme ou femme, c'est cliché.
C'est valable pour tout le monde.
Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que ce qui se passe maintenant avec le numérique change la donne totalement ?
Non, les réseaux sociaux ne changent pas grand-chose parce que, par exemple, quand on pourrait penser que pour la drague, une application comme Tinder, par exemple, uniformiserait la manière d'entrer en relation les uns avec les autres, puisque Tinder est utilisé un peu partout dans le monde et que quand on utilise Tinder, on l'utilise tous de la même façon. Et pourtant, quand on regarde les chiffres de Tinder, on voit qu'il y a des pays qui sont très utilisateurs, comme par exemple les États-Unis, et d'autres, pas du tout, comme par exemple en Italie, où Tinder est très 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 peu utilisé. Donc, on voit bien que la culture
l'Italien, continue. L'Italien n'a pas besoin de Tinder.
Oui, alors voilà, les Italiens n'ont peut-être pas besoin de Tinder. Mais vous voyez que très vite, on retombe dans les clichés. Je pense que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que vous soyez en lien comme ça avec quelqu'un qui vient pour vous draguer, pour entrer en relation, etc. Votre désir profond, lorsque vous êtes la personne qui est draguée, n'est pas d'être renvoyé à une identité du type le bel Italien, la belle Suédoise, le Parisien râleur, ou je ne sais quoi.
À part, quoi.
Hein, c'est, en fait, ce que vous désirez, c'est être reconnu, vous, comme vous êtes et qui vous êtes. Parce que nous ne sommes pas que le fruit de notre conditionnement. Nous sommes surtout le fruit de notre parcours, du fait que nous avons vécu des épreuves, nous avons vécu des souffrances.
Alors justement, à propos d'épreuves et de souffrances, cette pièce parle d'une veuve qui est réfléchie, se pose la question de savoir si oui ou non elle se remarie. Et tout à l'heure, Lisa Delmoitier nous a dit...
J'ai dit encore.
T'as parlé d'un sondage très précis. Tu peux le rappeler ? Tu l'as encore
ouais, en tête ? Italien qui dit que, par rapport aux veuves, que si un mari perd sa femme, c'est une souffrance physique. Mais quand la femme perd son mari, elle perd une source de stress. Alors elle va mieux physiquement.
Thérapeute,
j'ai entendu dire ça. Ouais.
Vrai, faux ou c'est,
juste une...
c'est une étude italienne.
Je trouve que c'est très dur à entendre, mais en même temps, je pense qu'il y a un bon fond de vérité. Ouais.
est-ce qu'il faut, en cas de veuvage, homme ou femme, est-ce qu'il faut forcément chercher à nouveau l'amour et reconstruire quelque chose c'est un conseil que vous donneriez à un veuf ou une veuve qui viendrait vous voir?
Le conseil que je donnerais, c'est de se retrouver soi-même, déjà, dans un premier temps. Surtout quand on a vécu très longtemps...
Reste toi-même, c'est un truc qu'on voit dans les téléréalités quand les gens sont éliminés, hein, le côté...
Non, mais on a besoin...
Se rendit aux gens moches aussi. Hein.
Oui, c'est vrai.
Cherche pas à soi-même.
Comment ?
Non, rien.
Non, je vous en prie, continuez.
Non, dans la pièce, la veuve, visiblement, elle n'a pas vécu très très longtemps avec son ex-mari, qui était un vieux monsieur, qui est mort assez vite, etc. Elle a envie de profiter de la vie et elle est très heureuse d'être sollicitée par de nombreux prétendants. Ça, c'est une situation qu'on trouvait en 1748, qu'on trouve un peu moins aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un qui perd son conjoint, c'est quelqu'un qui souvent a vécu longtemps avec son conjoint et qui donc s'est adapté d'une manière ou d'une autre à cette personne-là. Donc lorsqu'il le perd, eh bien, il retrouve petit à petit son identité propre. Et c'est à partir de cette identité propre qu'il peut retrouver ensuite quelqu'un d'autre pour l'accompagner plus longtemps.
Guillaume de Brémisson, merci d'être venu. Vous êtes l'auteur de L'amour du couple et de la sexualité, Lettre à mon fils aux éditions First, si j'ai bien compris le principe. Tanguy Pastureau nous a rejoint.
Oui.
Bonjour Tanguy, de quoi vas-tu nous parler ?
Je veux parler des femmes afghanes, vous savez, c'est des femmes qu'on a du mal à reconnaître à cause des burqas. Rarement on dit tiens, c'est Sylvie, quoi, tu vois. Quoi, vous aimez les... Non, non, les talibans ont pondu une nouvelle loi, Nagui, parce qu'ils sont très actifs, les talibans.
Très bien.
Ils ont fait leur entrée.
On en parle après-midi et demi. Nos invités sont Sarah Biasini et Tom Leb. Isabelle Moitié,
Fontaine, Amandine Lourdel, Tanguy Pastureau, Aldelas, yes. Daniel Morin,
Jean-Baptiste,
et nos invités, Sarah Biasini et Tablet.
La bande originale avec Nagui.
Eh oui, on essaye de battre le record du monde du générique le plus long de la planète. Sarah Biasini, Tom Lev sur scène pour la première fois, à part ce clin d'œil d'adolescence pour Tom Lev. Et puis, combien de temps fois, Sarah Biasini, parce que vous avez été à Avignon avec la Mégère apprivoisée, donc vous n'arrêtez pas d'être sur scène, c'est vital, c'est essentiel pour vous
de... Non, pas exagérer.
Non, mais est-ce que c'est quelque chose de... Ça vous manque quand vous n'êtes pas sur scène? Prenons l'inverse, alors.
Oui, non, c'est-à-dire...
Un peu comme le sport, quand on l'a évoqué avec Tom Lev, d'arrêter le sport du jour au lendemain. Si là, pendant 6 mois, ce que je ne vous souhaite pas...
Non, mais ça m'est arrivé. Enfin, là, ça m'est arrivé là, avant... Oui, ça m'arrive. Bah, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, j'ai pas vraiment de fonction dans la vie. Qu'est-ce que je fais de...
Mon nom.
Bah, si.
Faut pas dire ça comme ça.
Ah, vous aussi, vous vous demandez.
C'est un peu ma fonction.
Votre moteur, votre raison d'être.
Non, mais c'est okay. Mon activité. Okay. Voilà,
on dirait du Obispo, c'est beau quand tu parles.
Ouais, ouais, non, mais c'est pas ça, c'est que je pensais pas que ce soit aussi pesant. Parce que, est-ce que ça veut dire qu'il y a presque le réflexe de dire je vais accepter tel ou tel projet parce que j'ai envie d'être au théâtre, ou vous avez le confort, voire le luxe de dire... Bah non, j'aime pas cette pièce, ou alors j'aime pas ce qu'on me propose, ou je vais pas la jouer. Tant pis si pendant 6 mois ou cette saison, j'ai pas de pièce.
Oui, ça a pu m'arriver, mais bon, j'ai quand même aussi de la chance. On me propose des choses qui sont bien, donc je dis oui.
Vous avez, c'est déjà une chance.
J'ai du mal à dire non, en fait, c'est vrai. Oui, je regrette un peu parfois.
Vous avez le bol d'avoir de bonnes propositions. Comme celle-là, par exemple, cette Veuve rusée. Exactement. De Carlo Goddoni, adaptée, mise en scène par Giancarlo Marinelli, traduit par Valerio Zaina, avec sur scène donc Caterina Morino, Vincent Deniard, Vincent Desagna, Thierry Harcourt, Pierre Rochefort, Jean Reno pour une présence qui fait
vocale,
frissonner, oui. Qui oui. Fait peur. Et vous deux, Sarah Biasini et Tom Lev, pour Marionnette, la dame de compagnie, donc jouée par Sarah Biasini, et L'Arlequin joué par Tom Lev. Se retrouver au théâtre, c'est une chose. Se produire sur scène et chanter, c'en est une autre. Et ça va arriver là en décembre, à l'Alhambra.
Absolument.
Et alors, comment mener de front les deux, être sur scène au théâtre et être... Ou alors, il faut jouer un lundi soir ?
Faut jouer un lundi soir ou attendre que l'exploitation du théâtre soit terminée pour faire un concert.
Mais vous savez pas encore ce qui se passera en décembre pour la pièce de théâtre ?
Si. Pour l'instant, j'ai donné une indisponibilité, du coup, le 12 décembre pour faire mon concert à l'Alhambra. Mais, okay. Mais si, pour l'instant, on joue jusqu'au 24 novembre. Et si succès il y a...
Est au rendez-vous.
Voilà, on prolongera peut-être. Mais pour l'instant, je suis obligé de faire des plans quand même pour la suite et ne pas attendre le succès de cette pièce pour avancer dans ce que je veux faire.
Tom Lev, Sarah Biasini, avec nous jusqu'à midi et demi. Voici Tanguy Pastureau.
En tant que star des médias, je reçois pas mal de messages de gens qui louent soit mon talent, soit ma prestance. J'en ai eu deux de ce genre en 15 ans. Mais la plupart, c'est pour me sensibiliser à une cause. Alors, j'ai longtemps été en contact avec L214, mais j'en pouvais plus de voir des images de veau tranché vivant à la scie sauteuse. Je suis trop sensible. Hein, déjà, les images de Lucie Castet qui a pas eu le job, j'ai pleuré, quoi. Donc, j'ai arrêté de relayer leurs actions qui, de toute façon, le sont par vous, Nagui. Il y a quelques mois, vous avez posé avec dans les bras un cadavre de poulet. Oui. J'ai cru que vous étiez à la cantine de Radio France un jour où ils avaient fait aucun effort sur la présentation. Et régulièrement, j'ai des assos, des artistes qui me présentent ce qu'ils font. J'aimerais dire oui à tout le monde sans même savoir ce qu'on me propose, mais la seule fois où j'ai fait ça, je me suis retrouvé dans une pièce en sous-sol, éclairée à la bougie, et les 25 personnes armées de gourdins avaient posé leur slip dans un coin. Donc souvent, je dis non. Et je regarde les actrices, comédiens, chanteurs s'engager pour des causes en me disant « ce sont des gens super ». Après, je les rencontre ici en vrai, et la plupart sont des ordures. Bon, mais en tout cas, ils agissent. Gaza, il y a eu plein de prises de position. Paul Watson, qui est en prison pour avoir sauvé des baleines, c'est pareil. Pierre Ninet, Bardot, vous, Nagui, vous êtes monté au créneau. Et si vous aviez fait un peu de salle de sport, vous auriez pu poser avec dans les bras un cadavre de baleine. Mais 3 relevés de buste, apparemment, vous avez fait votre sport. Donc, forcément, vous défendez les poules, pas par conviction. Juste parce qu'au niveau poids, c'était ça ou les lézards. Par contre, bon, je critique personne, mais le sort des femmes afghanes, surtout chez les politiques qui aiment bien étaler leurs convictions, là, il n'y a pas grand-chose quand même. On sent que c'est pas la bonne lutte. Et hier, j'étais sur le site site de Libération, parce que j'aime bien essayer de me connecter à mes collègues de France Inter, et ils ont fait un article sur les talibans, alors qu'ils ont déjà fait leur rentrée. Ça travaille dur là-bas, parce qu'ils ont pondu une nouvelle loi. Donc en général, qui dit nouvelle loi, dit progrès social, avortement, mariage gay, 35 heures, et ben là, pas du tout. Hein, parce que le taliban est rétrograde. Voilà, quand il y en a un qui appelle Pascal Praud, qui lui dit c'était mieux avant, Praud répond avant, genre 1962, le taliban dit plutôt 1024. Ah bah leur vie, c'est les visiteurs de Jean-Marie Poiret. Cet arrêt-là, on franchit l'espace-temps sans Marty McFly, d'accord ? Et donc, cette nouvelle loi, spoiler, est old school. Titre de la loi, promouvoir la vertu et prévenir le vice. Bon, sur le papier, on se dit, ok, quoi, c'est plus rassurant qu'un chef d'État qui présenterait un projet intitulé « Satanisme et viol de bouc ». Mais quand on lit la loi, on se dit, d'accord, ils vont jusque-là. Les mecs repoussent les limites de l'innommable. Si l'innommable était une villa, ils auraient fait 4 extensions, dont une véranda avec jacuzzi, seulement accessible aux hommes parce que les femmes, leur champ d'action se réduit chaque année. Exemple, la nouvelle loi leur interdit alors de chanter, bon, de lire à voix haute, de se maquiller et se parfumer. Alors, je sais pas s'il y a un Sephora à Kaboul. Bon, si c'est le cas, ça sent le plan de licenciement. Elles ne doivent sortir de chez elles que par nécessité, si bien que dans la rue, il n'y a que des hommes qui doivent se regarder les culs des uns des autres parce que c'est ce qu'on fait dans la rue. S'il n'y avait pas de cul, le baron Haussmann, qui devait être un sacré chaudard, n'aurait jamais conçu toutes ces larges avenues. Hein, Florent Pagny à Paris, il se moule dans un jean slim, mais dans la pampa argentine où il n'y a pas un pleu-pleu, je pense qu'il porte de la toile de juc. La rue, c'est le cul. Ça ferait un bon slogan pour la promotion des activités en extérieur.
C'est vrai, c'est vrai.
Bon, autre décret des talibans, la femme doit couvrir intégralement son corps. Bon, ça, c'est un classique. Vous voyez les plages des Landes en juillet, donc c'est un peu l'inverse. Elles doivent aussi se couvrir le visage avec un port de masque type Covid, détaillent les talibans. Il n'y a plus que là-bas qu'on va en trouver. Donc, si une pandémie démarre, ce seront les seuls à avoir des stocks. Hein, les mecs qui n'auront pas de masque mourront tous. Retour de karma. Il restera plus que des femmes libres qui se dessaperont. Bref, l'ambiance sera la même que dans Canary Ben Indochine, mais sans musique parce que les instruments ont été détruits par les talibans. Un conservatoire là-bas, c'est une salle vide avec le prof qui dit « Alors, c'est pas gagné qu'Oasis passe chez nous en 2025. » Alors, vous allez me dire pourquoi les femmes doivent-elles se cacher le visage ? Daniel, ce matin, me disait « C'est si beau, un faciès de femme. » Puis il s'est mis à suer. Il a même saigné du nez. J'ai filmé pour L214, donc quand Daniel sera mort, Nagui, vous porterez son corps encore chaud dans Paris.
Trop lourd.
Voilà, je sais. Alors, selon les talibans, le visage couvert des femmes, c'est par peur de la tentation. Les hommes pourraient craquer. Alors qu'un visage, bon, voilà, c'est un visage, quoi. Il y a toujours un truc qui va pas là-dessus. Quand on se caresse, on pense rarement au visage de la personne, non ? Enfin, à part quelques chirurgiens esthétiques spécialisés dans la reconstruction de la mâchoire, qui peuvent se faire du bien devant les photos avant-après du visage de Madame Sanchez, mais enfin, c'est tout. Bon, par ailleurs, la nouvelle loi talibane interdit la musique à l'intérieur des voitures. C'est sans doute pour ça qu'à la bande originale, on a pu le blind test. C'est pour aller chercher des intégristes musulmans. J'avais 2-3 copains de droite qui me disaient ça sur France Inter depuis 10 ans, j'y croyais pas trop. Sinon, il est interdit de visionner des images d'êtres vivants sur son ordinateur. Donc le trombinoscope des entreprises là-bas, c'est très ennuyeux à regarder. Alors l'espèce vide ici, c'est le responsable de la compta. La barbe est obligatoire. Elle ne doit pas être trop courte non plus. Alors c'est très très précis. Les mecs le matin se la calculent au double décimètre, pendant que leurs femmes se tapent dans toutes les portes de l'appart parce qu'elles ont 14 masques entre le menton et le front. Bref, c'est un pays bien absurde et très très con. Les femmes afghanes sont écrabouillées par le système. Je voulais juste en parler, ce qui n'empêche pas d'appeler à la libération de Paul Watson parce qu'une cause n'invisibilise, c'est dur à dire, n'invisibilise pas forcément toutes les autres. Voilà, bisous.
Merci.
Candy Bastureau, très très visible dans un mois pile poil à Paris pour son nouveau spectacle, Un monde hostile.
Spectacle avec la veuve rusée et spectacle féministe, j'ai envie de dire, puisque c'est les femmes qui ont le pouvoir dans cette pièce. Sarah.
C'est ça.
Merci.
Non mais oui, elles ont le pouvoir de choisir avec qui elles vont passer un petit bout de temps.
Non mais je voulais souligner qu'on est en 2024 en train d'entendre des lois rétrogrades et que là on est avec une pièce du 18e siècle qui était extrêmement en avance là-dessus.
C'est vrai.
C'est ça qui est important aussi et qu'il faut mettre en avant.
C'est vrai. Et en même temps, je pense que ça colle pas non plus forcément au monde d'aujourd'hui où il y a une chute dans le taux de mariage, je pense.
J'ai pas les chiffres.
Non, je sais pas.
D'accord, il y a de moins en moins.
Non, mais je me dis, c'est bien aussi d'être seul. On est bien seul aussi.
Oui, mais c'est une image, l'idée du mariage, en l'occurrence. C'est un message que je voulais faire passer.
Non. Mais...
Elle n'est pas obligée, la veuve rusée, de se marier. Elle a simplement 4 prétendants. Et, elle se laisse séduire et elle va voir qui est le plus charmant, charmeur des 4.
C'est une romantique. Elle a besoin d'amour. Elle veut l'amour et le cherche.
C'est vrai.
Elle veut s'en amuser au début. Pour le bien de la comédie de cette histoire, mais c'est ça qu'elle veut, c'est finir sa vie amoureuse.
Et elle incite donc sa dame de compagnie, jouée par Sarah, elle aussi, à trouver l'amour en se disant, parmi tous ces gentils hommes, il y en a bien un qui peut te plaire et un qui peut bien me plaire. Il y a aussi une satire sociale, puisque ça va jouer justement avec le fait qu'elle ne va plus la présenter comme sa dame de compagnie, mais comme une amie, une cousine, française de mémoire, c'est ça. Pour justement que la barrière du rang social et de l'argent tombe et que les 4 soient démasqués, parce qu'on est dans un carnaval mais où on veut démasquer l'autre.
Oui, elle grimpe dans l'échelle sociale, voilà. Mais c'est pas pour autant que les hommes se retournent. Voilà.
Qu'est-ce que vous aimez dans cette pièce, Tom Leb?
Alors j'aime le rythme. Vraiment.
Votre ancien costume ?
Oui, apparemment. C'est le nouveau costume d'Arlequin, beaucoup. Alors, je dois avouer que j'aime beaucoup la partition d'Arlequin. J'aime sa folie, j'aime sa comédie. J'aime écouter cette belle langue. Et puis j'aime surtout les situations dans lesquelles chacun des prétendants se retrouve, selon leur tempérament, qui prête à des situations de comédie vraiment très fortes. Et surtout... Moi-même étant un romantique, et je le revendique, ce twist dont on parle au début de l'émission, qui est révélé avec l'un des prétendants, me touche beaucoup. Parce que ce qui se raconte à ce moment-là sur la fidélité et sur la sincérité d'un homme, que peut aujourd'hui ça peut être d'actualité, c'est très moderne, parce qu'il y a des hommes sincères qui ne sont pas uniquement intéressés, je parle crûment, par le cul et l'argent. Et donc, quand parle ce prétendant et quand il reçoit la lumière, à toute l'attention de Rosa Aura, qui est jouée par Caterina, ça me touche beaucoup, parce qu'il y a du bon dans tout ça.
Caterina Mourinho, il y a Vincent Deniard, Vincent Dezania, Thierry Harcourt, Pierre Rochefort, Tom Leb, Jean Reno pour la voix qui accompagne, qui conseille ou qui surveille Caterina Mourinho, Sarah Biasini qui est notre invitée aussi. On va parler de vos projets dans quelques instants, mais d'abord, Amandine, c'est le moment.
Amandine
Lourdel.
On t'écoute.
Salut à tous. Yeah. Je suis très contente d'être là. Je suis rêvée d'avoir une bande. Ça va, vous avez passé un bel été?
Oui.
Super, super. Moi, je suis crevée parce qu'en juillet, j'ai fait le Festival d'Avignon avec mon spectacle et je m'en remets pas du tout. Alors, le Festival d'Avignon, c'est un peu comme le Festival de Cannes. À part qu'il n'y a pas la mer, que tout le monde est habillé en fripe et que tu risques pas de te faire inviter par un producteur dans la suite d'un 5 étoiles pour discuter parce qu'il crèche tous dans des terrains du côté de Montfavet. Donc c'est pas du tout pareil en fait, c'est pas du tout pareil. Et c'est dur Avignon, oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Je rappelle que pour les artistes, le plus gros du taf consiste à distribuer toute la journée des flyers aux badauds dans c'est le vrai. But de les convaincre de venir voir ta merde. Dans un théâtre qui t'a loué un créneau au prix d'une bagnole et qui le reste de l'année fait office d'escape game.
C'est vrai.
Alors, but de l'escape game, réussir à traverser le Vaucluse sans croiser ni un électeur du RN, ni un Marie Blachère. Spoiler alert, personne n'est jamais allé jusqu'au bout. Le tout pour qu'il y ait dans ta salle moins de personnes qu'il ne fait de degrés dehors. Qu'est-ce qu'on a transpiré, mon vieux. À la base, je pensais que je pouvais pas être femme fontaine. Et ben en fait, si. Mais que de la moustache, apparemment. C'est simple, à la fin du festival, je sentais la soupe au pistou. C'est-à-dire que j'étais plus une femme, j'étais une spécialité provençale avec des agios. Si peu que ton régisseur ait oublié de mettre la clim... Ouais, je suis sorry, mais la clim, c'est vraiment une catastrophe écologique. Ouais, d'accord, Nico, mais moi, mon spectacle, c'est censé être un bon moment, pas une tuerie de masse. Oui, tu peux prendre un flyer pour te faire un tonka, oui. Et malgré la chaleur, en fin de soirée à Avignon, il y a un troc de MST, je te dis pas, quoi.
Ah bon?
Ah oui. Un seul critère de séduction, être l'heureux propriétaire d'un ventilo. On baise, ça dépend, t'as la clim. Non, à température ambiante, c'est injouable. Attends, t'as déjà vu deux otaries qui essaient de se faire des câlins en sortant du bassin? Bah pareil. Enfin, je dis ça, c'est les autres qui m'ont raconté.
Bien sûr.
Non, parce que moi, je suis arrivée avec un plan pécho infaillible qui, au final, est tombé dans la piscine de Rosé. Je m'étais dit, lourdelle, tu t'inscris sur une appli de rencontre en début de festival, on va quand même être pas loin de 10 000 intermittents dans une ville d'1,5 km² entourée de remparts et de tours de guet. Ça va être le puits du fiac, l'histoire. Il y a bien un moment, tu vas te faire soulever le pont-levis. Il y a bien un Hamlet de fin de soirée ou un Cyrano du caniveau qui va te remplir la douve. Eh ben, que nenni. La géolocalisation de mon téléphone déconnait. Merci Bill Gates. Résultat, le seul mec avec lequel j'ai matché était en Ardèche à faire du pain aux levures indigènes dans un four en terre paille. Attends, moi je suis pas bagel, mais j'avais pas envie de passer le mois d'août dans une yourte à Privas à jouer l'international au bâton de pluie. Et vous me direz, mais justement, s'il y avait tellement de gens, t'aurais pu rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Et vous auriez raison, la bande. Le problème, c'est que je suis devenue très rapidement pote avec des gens qui faisaient des soirées jeux. Et moi, faut savoir, dans la vie, je suis très très jeu, de toutes sortes. Tu vois. Là, par exemple, tout de suite, un homme ici présent... Il vient plus, Guillermo Guise. Tant pis, hold the laugh. Là, tout de suite, tu me proposes une partie de jambes en l'air ou une grille de mots fléchés. Bon, bah, tout dépend si t'as un stylo, quoi. Voilà. Donc, au final, j'ai pas trouvé l'amour et j'ai perdu 250 litres de soupe au pistou. Mais j'ai joué devant 831 personnes, je suis imbattable au Time's Up et j'ai même atterri sur Inter. À vous, les studios. Merci.
Sur scène. Amandine Lourdel sur scène avec la clim.
Avec la clim au Mans le 28 septembre et à partir du 15 octobre à Paris au Théâtre Beau-Saint-Martin.
Sois la bienvenue en tout cas.
Merci. Ouais.
Bienvenue. Parlons de vos projets. Alors, projet immédiat le 10 septembre, je le rappelle, au Théâtre des Bouffes Parisiens, La Veuve Rusée de Goldoni. Drôle, une pièce culte et un classique mais toujours d'actualité avec vous au casting, Sarah Biasini, et des projets de livres. Avec quoi je devrais pas en parler?
Non, c'est pas ça. Justement, à 4h du matin, je me suis dit que j'allais écrire à mon éditeur pour lui dire « Attendez-moi encore un peu. »
Non, ouais, mais pourquoi vous devez rendre le document
très,
quand?
Très à la bourre.
C'est un roman, c'est ça?
C'est avant 14h aujourd'hui, il faut avoir fini.
C'est horrible. Ne me plombez pas ma journée. Oui, non, mais
Je sais pas, vous avez dit dans une interview que l'écriture était une liberté de mouvement pour vous.
C'est faux.
Une liberté. Aimais bien avant.
Sarah, ça devait être un jeudi que vous avez dit ça.
Une liberté de création. Vous dites, l'écriture pour moi est un véritable épanouissement.
Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous vous piégez ou quoi? Je vois bien dans vos yeux. Vous êtes pas du tout. Vous êtes très antipathique là tout de suite. Oui, c'est une liberté de création et de mouvement.
Justement, je fais ça quand je veux et où je veux.
Oui, écoutez...
Mais là, il y a un peu de retard.
Ça m'a pris une fois, et puis j'aimerais bien que ça recommence, mais voilà,
bon,
ça
alors,
prend du temps.
Autant si le roman n'est pas fini, c'est un roman qui parle de quoi
Alors, ce serait...
Vous avez convaincu l'éditeur sur quelle base?
Ce serait que la première page, quoi.
Oui, c'est ça. Le pitch?
Une histoire de frères et sœurs.
Ok, c'est bien ça.
C'est bien, j'aime bien.
Non, mais attends, début,
j'en sais rien.
Vous voulez que je note pour vous, les
gars? Arrêtez de stresser, déjà que le 10, ils seront peut-être pas après en plus.
C'est ça, non. Il y a d'abord ce stress là. Voilà.
Faut traduire le metteur en scène et après on va commencer.
Beaucoup plus détendu, Tom Leb a déjà enregistré les chansons.
Ah, quelqu'un qui bosse.
Ça c'est This Love, il y a également Breakaway.
Vous allez faire tout l'album, c'est sympa.
C'est beau, c'est beau.
Bah, si elle avait fini son roman, j'aurais lu toutes les pages, hein, mais bon.
Lecture à l'antenne.
Il chante également.
C'est pas forcément pour danser hein, comme genre de musique. Hein.
Non, mais ça fait penser à Bryan Adams un peu dans le voix et guitare-voix. Est-ce que c'est la guitare-voix? C'est comme ça que vous allez vous produire ou il y aura un groupe avec vous à l'Alhambra? Je rappelle, c'est le 12 décembre.
Bien évidemment, il y aura un groupe, mes musiciens qui sont comme mes frères et quelques choristes aussi, parce que j'aimerais que cette date qui servira de célébration de la sortie de l'album soit vraiment une une fête un petit peu de tout ce que j'aime faire. Donc il y aura du guitar voix, il y aura du groupe, et il y aura aussi avec le gospel. Donc de quoi vraiment prendre du plaisir.
Et pour vous faire plaisir ou faire plaisir au public, à part vos chansons, est-ce qu'il y a une reprise,
oui,
cover,
il y aura
un clin d'œil
sur... Ouais, il y en aura deux, et ce sont des artistes anglophones, puisque pour l'instant.
Qui sont vos références?
Qui sont mes références? Alors mes références, non, parce qu'il y aura du Chris Isaac, il y aura aussi du
Blue Hotel.
Non.
Okay. Wicked Games. Wicked.
Très bien.
Plus, un peu plus connu. Et il y aura aussi.
Bon, je t'en prie, Blue Hotel c'est connu. Hein, c'est pas parce que tu connais pas que c'est pas connu.
Il y aura aussi d'autres artistes anglophones, mais je prends tellement de plaisir à chanter mes chansons, et surtout comme j'ai rarement des concerts à Paris, c'est l'occasion vraiment de jouer le maximum de mon répertoire.
C'est toi qui as tout écrit sur le
Oui. Ah, merci.
12 décembre à l'Alhambra, vous avez tourné Le Vent des Sables qui va passer là dans quelques jours, ça sera le 7
oui, et
septembre.
Oui, je l'ai appris effectivement hier avant-hier.
Nous aussi, donc on a appris récemment, on n'a même pas eu le temps de le voir.
Moi non plus.
Vous partagez l'affiche avec Marie-José Croze et Alexandre Brasseur, qui lui aussi aurait pu changer de nom. Vous êtes actuellement...
aurait dû d'ailleurs.
Comme Pierre Rochefort, il y a un moment, il faut quand même faire des choix dans la vie.
Non mais franchement, on n'est pas allé au bout de cette histoire, mais avouez que si je m'appelais, je sais pas, Peluche, et vous avez dit, donc on reçoit aujourd'hui...
le fils de Coluche.
Peluche, qui est donc le fils de Michel. De toute façon, ça tombe à un moment
évidemment,
donné.
Donc, évidemment, je blague. Et j'ai beaucoup de tendresse pour Alexandre Brasseur. Hein,
on embrasse Peluche aussi.
On embrasse Peluche.
Mon livreur de Noël, ça c'est... un téléfilm que vous faites pour France 2, c'est ça ?
Ouais.
Et puis vous êtes en tournage pour une série Netflix qui s'appelle Nero. Quel personnage jouez-vous avec il y a Pio Marmaille et Alice Izaz au casting.
J'en sors, donc c'était une série médiévale et j'adorerais pour le coup vous raconter ce que ça raconte,
mais vous n'avez pas le droit.
Mais non, c'est pas ça, c'est que je n'ai pas eu accès au reste des épisodes puisque mon personnage n'est présent que dans le premier épisode. Des très très jolies scènes.
C'est fou hein, comme les plateformes font signer des
causes. Donc j'ai eu le premier épisode.
Ouais, d'accord.
Et je dis, et la suite ? Ils m'ont dit, mais tu n'es pas dans la suite.
Tu es mort. Ah, spoiler. Pardon.
Énorme spoiler, mais c'est énorme spoiler, gigantesque spoiler. Mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Mais que Netflix m'attaque. Daniel Morin, des excuses à présenter.
Oui, désolé pour le conjoint ou les futurs conjoints de Lisa Delmoitier qui a bien compris ce matin comment elle les préférait. Elle les aime morts. Voilà. Faut savoir, les gars, c'est tout, faut être prêt. Désolé pour tous ceux qui n'ont pas bien compris pourquoi la France n'avait pas participé à l'Eurovision en 1974 et qui croient que l'annulation était dû à la mort d'un chanteur appelé Pompidou. Alors non, Pompidou n'était pas chanteur. Non, pas un hôpital non plus, Lisa. C'était le président de la République.
C'est vrai.
Désolé enfin pour Sarah Biasini et Tom Leb, qui, on l'a bien compris, travaillent avec un metteur en scène qui ne parle pas bien français. Ils entravent que dalle. Alors, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais je vous dirai un truc. Nous, on a un peu le même problème. Depuis 11 ans, à la bande originale, mais finalement, avec le temps, on finit par le comprendre, le Nagui.
Ah, super. Giancarlo Malinelli. Merci beaucoup, Sarah Biasini. Merci beaucoup, Tom Leb. À partir du 10 septembre, je le rappelle, sur scène au Théâtre des Bouffes Parisiens, cette veuve rusée signée Goldoni avec Caterina Morino, Sarah Biasini, Tom Leb, nos invités, mais également Vincent Deniard, Vincent Dezania, Thierry Harcourt, Pierre Rochefort et Jean Reno. Demain, nous recevons Afsia Herzi et Patricia Mazui. Bonne journée sur Inter.